On se souvient du débat polémique qui, en 1996, avait accompagné la sortie d'un ouvrage intitulé « Les naufragés de l'esprit, des sectes dans l'Église catholique ». De fait, la question du risque sectaire dans les communautés nouvelles est à la fois délicate et incontournable. Délicate car il est aisé de crier « haro sur le baudet », certaines communautés sont récentes, mal connues et peuvent facilement ouvrir le flanc à la critique. Mais le sujet n'en est pas moins incontournable, l'histoire a montré que le risque était réel et que certaines communautés avaient franchi la ligne rouge. Bien loin de la polémique, le frère Rick Van Leer, spécialiste de la sociologie religieuse et qui s'intéresse depuis 12 ans au phénomène des nouvelles communautés, nous explique pourquoi ces dernières peuvent courir un risque sectaire.
La question des sectes, sens de repliement sur soi et souvent conséquemment de coupure, de rupture face à la société, face à l'Église. Un secte vient de sécarrer, couper. C'est un danger réel, je dirais non seulement pour les communautés nouvelles, elle l'est pour tout groupe ecclésial, elle l'est pour des communautés de fondation ancienne également. Mais de fait, il faut reconnaître que au cours des 10-15 dernières années, un certain nombre de cas de communautés nouvelles problématiques, avec des tendances, enfin, je l'utilise entre guillemets, sectaires, mais au sens de rupture, certains cas de communautés nouvelles ont été mis sur la place publique. Il y a autour de ça tout de même une réalité, c'est-à-dire des communautés qui vivent un certain nombre de difficultés, de limites. Il y a des voies qui représentent vraiment des écueils.
De fait, le profil des fondateurs de communautés est essentiel. Il peut parfois jouer un rôle critique dans une éventuelle dérive sectaire. Rick Van Leer.
Ce sont des figures qui, très souvent, ont des charismes personnels, je pense ici charisme au sens sociologique du terme, hein, c'est-à-dire vraiment des traits de personnalité qui sont attirants, qui suscitent l'admiration, qui suscitent un mouvement de disciples également. Or, ces rapports sont dans bien des cas très bien vécus, tout dépend évidemment et des membres et de la personnalité même de la figure fondatrice, mais nous voyons également certains cas plus problématiques, soit de fusion émotive entre les membres et la personne fondatrice, parfois de la part de la personne fondatrice, un exercice autocratique de l'autorité et conséquemment ce genre d'exercice de l'autorité engendre chez les membres une obéissance infantile ou servile ou encore servile. On voit donc que ce sont des points à surveiller. Pour bien illustrer, il y a tout de même des caractères forts chez certains fondateurs ou encore fondatrices et qui mènent leur communauté parfois un peu comme un général d'armée, si on permet l'expression, c'est-à-dire il est normal que le fondateur ou la fondatrice donne l'orientation de fond de la communauté, mais parfois on voit, ici c'est un exemple très concret, ce que j'appellerais un cumule parfois des figures d'autorité, c'est-à-dire que un fondateur ou une fondatrice a d'abord un certain ascendant sur la communauté parce qu'il est fondateur ou elle est fondatrice. Ça, bon, c'est tout à fait normal. Ensuite, souvent, la même personne, elle est aussi supérieure générale de la communauté. Nous sommes là dans un rapport vraiment d'obéissance, puisqu'on parle aussi d'un vœu d'obéissance, ou du moins d'une promesse d'obéissance dans ces communautés. Ce à quoi, souvent, là on réfléchit la question un peu plus sous l'angle psychosociologique, l'ombre du père ou encore de la mère. Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres, mais on voit parfois une paternité ou une maternité psychologique exercée par la figure fondatrice par rapport aux membres, et des membres vraiment qui sont émotivement très liés à la personne fondatrice. Bon, je pense que les émotions sont toujours engagées dans les rapports humains, mais l'élément à surveiller, c'est lorsqu'il y a cumul à la fois l'autorité venant du fait qu'il est fondateur ou fondatrice, ce supérieur légitime, et en plus ce rapport parfois fusionnel, émotif avec des membres, voilà quand même qui peut potentiellement poser des problèmes. Et tout de même, un certain nombre d'expériences montrent que c'est là parfois une difficulté.
Quels sont les éléments importants, alors, pour éviter à la communauté de devenir une secte.
Le respect de l'autonomie des personnes, la liberté des membres, éviter le repli fusionnel des communautés, ce que j'appelle aussi une symbiose dysfonctionnelle. On est bien entre nous et par conséquent, le monde extérieur, eh bien, il est mauvais, que ce soit certains milieux d'église ou encore la société en général.
Mais la hiérarchie de l'église, et notamment l'épiscopat, peut jouer un rôle important pour contrer les risques de repli.
Je pense que c'est un des rôles du père évêque des différents diocèses d'accueillir tout d'abord ces communautés, d'accueillir ces projets de fondation et conséquemment également de les accompagner vraiment dans un processus de discernement. Est-ce qu'il s'agit là véritablement de l'œuvre de l'Esprit-Saint? Et puis bon, il s'agit de voir à travers le temps. Mais c'est vraiment une œuvre d'accompagnement qui relève, je pense en premier lieu, de l'évêque diocésain. L'évêque diocésain qui par ailleurs peut également déléguer d'autres personnes à l'accompagnement de ces communautés et il est intéressant d'observer ici comment entrent en jeu notamment des membres appartenant à des communautés de fondations anciennes. Non seulement parce que parfois bon, leurs propres membres ont un certain âge, une certaine expérience de la vie et on espère une certaine sagesse, mais également ils ont une tradition forte qui a passé à travers les crises, crises personnelles, crises communautaires. Donc on voit, bon, que ce soit des dominicains, des franciscains, ou encore des religieuses de différentes communautés, et qui accompagnent ces communautés à travers ce qu'elles vivent, leur joie, tout comme leurs difficultés, et c'est quelque chose qui se vit vraiment à même le terrain. Il y a des exemples très concrets de cela.
Pour favoriser ces échanges entre nouvelles et anciennes communautés, la Conférence religieuse canadienne a mis en place il y a un an un comité de dialogue destiné à leur permettre de mieux se connaître. Un cas porteur d'espoir, mais a priori unique dans la francophonie catholique.